franceinter.fr.
Bonjour à tous. Nous sommes à 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle et ce dimanche, Interception boucle sa série Train de campagne. Ces reportages enregistrés au fil de voyage dans les transports en commun. Ce dimanche, direction la Bretagne. Nous embarquons à bord de TER, le trajet Saint-Brieuc-Morlaix. C'est d'emploi dont il sera question durant les arrêts effectués sur ce trajet. Le travail, thème prioritaire pour les Français et qui a occupé une large place lors du débat présidentiel de cette semaine. Selon les données de l'INSEE, le taux de chômage au niveau national est de 9,7%. En Bretagne, c'est un point de moins. Mais la réalité de cette région de plus de 3 millions d'habitants est forcément plus complexe que ne le laisse penser un chiffre. À seulement 40 km de distance, la réalité entre deux villes peut être à l'exact opposé. Florissante, comme à Lannion et son pôle d'excellence technologique, et moribonde, comme à Guerlesquin, depuis la fermeture du principal employeur de la ville. C'était un abattoir de volailles. L'agriculture, et surtout l'agroalimentaire, emploie 2 fois plus de salariés en Bretagne que dans le reste du pays, tout en subissant également tous les chocs que le secteur a traversés. En près de 25 ans, 2 tiers des exploitations agricoles ont disparu dans la région. Emploi, la mosaïque bretonne, c'est un reportage de Yann Gallic et Éric Damaggio.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes dans le port de Saint-Quay-Portrieux, dans la baie de Saint-Brieuc. Des chalutiers sont en train de pêcher au large, d'autres sont déjà à quai pour décharger leurs filets remplis de coquillages. Plus de 200 bateaux pêchent ici la coquille Saint-Jacques. C'est l'une des principales activités économiques de la baie de Saint-Brieuc. Une activité qui génère près de 700 emplois sur les navires de pêche, mais aussi dans les criers et les ateliers de transformation.
Vous allez bien ?
Oui, vous.
Je vous laisse enlever vos gants.
Oui, bah c'est bon. Vous pouvez embarquer, hein,
On monte directement sur le chalutier ?
Ouais. On va partir pour trier. Parce qu'on ne trie pas dans le port ici.
D'accord.
Bonjour.
Donc vous êtes le patron, Vincent,
ouais.
Et Simon, vous êtes le matelot.
C'est ça.
Là, il y a plein de coquilles qui sont par terre.
Qui restent à trier. On pêche en fait pendant 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes-là, on remplit le bateau. Et après, suivant la quantité qu'on a pêchée, suivant si c'est sale ou propre où on était, on a pour entre 1 heure et 3-4 heures de triage. C'est pour ça qu'on va repartir avec vous pour finir de les trier.
Et bah allons-y.
Voilà. Vous pouvez venir, hein. Vous pouvez rentrer, il y a un peu de place quand même dans la cabine. Et aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Je m'appelle Vincent Cadran, je suis patron pêcheur depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'étais directeur financier dans la fonction publique territoriale pendant plus de 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit, si tu veux changer de métier, c'est maintenant. Et comme j'ai toujours été baigné dans la pêche et élevé dans la pêche, puisque mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient pêcheurs, et donc je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai franchi le pas.
Vous arrivez à vivre de votre métier aujourd'hui, Vincent ?
Oui, j'arrive à vivre de la pêche. Ouais. Après, c'est pas les mêmes revenus que ce que j'avais avant. Et c'est vrai qu'après, on arrive à tirer un salaire quand même parce qu'on a la vente en direct. Sur de la pêche côtière comme ça, pour moi, c'est indispensable. Ou alors, il faudrait être jour et nuit en mer.
Et vous touchez combien à peu près par mois ?
C'est difficile à dire parce que ça dépend des périodes et des mois, quoi. Certains mois, ça peut être juste le SMIC et puis certains autres mois, on peut doubler ça.
Donc ça peut être entre 1300 et voilà. 2500 euros par mois.
En gros, c'est ça.
Et vous avez avec vous donc un employé, un marin,
oui.
Qui vous aide ?
Oui, j'ai Simon qui est avec moi depuis un an.
Donc ça veut dire que vous êtes capable de verser un salaire à quelqu'un d'autre ?
Ah oui, ben, je verse un salaire à Simon, je me verse un salaire et j'ai une employée à terre donc qui fait de la vente directe à qui je verse également un salaire.
On dit souvent que la pêche française se porte mal. On voit quand même de jeunes pêcheurs qui se lancent dans ce métier malgré les difficultés. Donc ça va pas si mal que ça.
Ben, je sais pas si on peut réfléchir comme ça. C'est un métier de passion, donc que ça aille bien ou mal, ceux qui ont commencé à goûter à ça, ils y vont. Que ce soit rentable, difficile ou pas, ils y vont quand même. Donc ils vont pas regarder les heures, ils vont pas regarder les sommes à investir, ils vont le faire. Et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup de sacrifices dans la vie familiale. Mais aujourd'hui, je pense que la pêche côtière a quand même des difficultés parce que on devrait être capable, comme mon père, mon grand-père, nous aussi, de faire des bateaux neufs, d'avoir un outil performant, sécurisant. Et aujourd'hui, on peut pas rembourser ou très difficilement rembourser ces bateaux neufs.
Ça coûte combien un chalutier comme celui-là ?
Ça dépend de l'état du bateau. Un bateau comme celui-là, ça vaut dans les 140 000 euros d'occasion. Par rapport à la génération de mon père, en 20 ans, on a plus que divisé par deux le nombre de bateaux en pêche côtière. Et on est parti pour que ça continue de diminuer. Aujourd'hui, il y a une politique de la Commission européenne sur la pêche qui est une politique basée sur les lobbies et plus tournée vers l'industriel. Et on a l'impression que la pêche côtière aujourd'hui est sacrifiée au profit d'armements plus gros. Et on peut faire un peu le parallèle avec l'agriculture, quoi. On a l'impression que la Commission européenne préfère avoir moins de bateaux, plus gros, plus industriels, moins de personnes à surveiller, plutôt que de garder une diversité et une pratique de pêche artisanale et côtière.
Donc le problème, selon vous, aujourd'hui, il se situe au niveau européen ?
Ah oui, puisque c'est eux qui nous dirigent. Donc c'est eux qui font les choix pour nous. C'est Bruxelles qui décide. Et les règles qui sont faites ne sont pas faites pour la pêche artisanale.
Vous êtes confronté de plus en plus à la mondialisation ?
Oui. Quand on pense qu'en France, avec les gisements de coquilles Saint-Jacques qu'on a, aujourd'hui, ce que mange la population, il y a 10% qui est de la coquille pêchée sur des gisements français. 90%, c'est de l'importation. Donc c'est énorme la concurrence pour nous internationale, avec des gisements qui ne sont pas forcément exploités de façon durable et raisonnable. La coquille d'Argentine, du Chili, ou même d'Angleterre ou d'Irlande, ils ne respectent pas forcément les stocks. Donc c'est vrai qu'après, on ne peut pas lutter en termes de prix avec eux. Et il ne faut pas, parce que sinon, on mettrait le gisement à blanc en un an, quoi, ou deux ans. C'est pas souhaitable, on espère avoir un avenir un peu plus lointain.
Pendant la saison de pêche, vous pêchez combien de jours par semaine ?
Alors, ça dépend des mois. En ce moment, on pêche deux jours par semaine. Et au mois de décembre, comme il y a plus de demandes, on pêche trois jours par semaine.
Et le temps de pêche est très limité ?
Très limité, 45 minutes, pas plus.
Vous avez des contrôles ?
Ah oui, on a des contrôles. Hein. Aujourd'hui, il y avait le Zodiac des affaires maritimes avec nous. Et après, 5 minutes après la pêche, après l'heure de pêche, l'avion était aussi passé au-dessus de nous pour contrôler qu'on avait bien levé nos dragues et qu'on était bien en route pour le port.
Et si vous dépassez le temps de pêche, qu'est-ce qui peut arriver ?
Il y a tout un système de sanctions administratives et pénales, avec donc des amendes, des jours de retrait de pêche, et ça peut aller jusqu'au retrait de la licence de pêche. Pas une pêche qu'on pratique qui n'est pas réglementée. Hein. Et cette réglementation, la plupart du temps, a été mise en place par les pêcheurs eux-mêmes. Donc la réglementation, on l'a choisie pour notre avenir, quoi, pour qu'il en reste, pour qu'on puisse pratiquer le métier encore demain. Quoi.
Thank you. Nous arrivons à Lannion, une ville qui a su conserver son attractivité économique grâce au secteur de l'électronique, des télécommunications et de l'optique. Lannion, parfois surnommée la Silicon Valley bretonne, car il y a ici une technopole qui regroupe 200 entreprises spécialisées dans les industries de pointe et qui emploie près de 5000 personnes.
Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue à un nouveau système qui transcrivait tout ce que nous disons.
Yvan Ridet, moi je suis le dirigeant de Voxpass, une société qui fait la transcription de conversations, une start-up que j'ai créée il y a maintenant un peu plus d'un an.
Alors vous êtes installé, c'est assez étonnant, dans une vieille maison en pierre bretonne, et vous êtes combien dans cette start-up ?
On est 5. C'est assez rigolo ici, c'est une équipe avec plusieurs origines. Là vous allez rencontrer Ahmed qui est égyptien, mais dans l'équipe j'ai aussi un chinois, j'ai un malien, j'ai une brestoise. Donc du coup on essaie de reconstituer comme ça pas mal d'origines, de langues, de cultures.
Et c'était comme volonté de votre part ou
oui,
c'est simplement parce qu'ils avaient les compétences nécessaires à votre activité?
Ben les deux, on travaille sur les langues, donc sur la reconnaissance de langues et de différentes voix. Donc on avait besoin d'avoir justement toute une panoplie d'accents, de voix pour modéliser nos systèmes.
Bonjour.
Voilà Rosen.
Bonjour Rosen.
De Brest.
Donc vous êtes la brestoise de l'équipe.
Voilà, c'est ça.
Et effectivement, quand on a lancé le recrutement, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, bizarrement, sur la région qui répondaient au profil qu'on cherchait. Et donc, c'est des gens qu'on a trouvés sur Paris, sur Toulouse, et qui sont venus s'installer ici grâce à nous.
On va rappeler quand même ce que vous faites, votre activité principale.
Oui. En fait, on développe des logiciels qui ont pour but de transcrire ce que disent les gens en réunion. Notre cible, ce sont des industriels, hein, des entreprises comme Bouygues aujourd'hui ou Renault, qui ont des réunions souvent multilingues, souvent à distance. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes de compréhension les uns les autres. Et on va essayer de les aider en transcrivant notamment à la volée tout ce qui est dit pendant ces échanges pour faire des sous-titres aux réunions qui se passent en live.
Ben on va aller voir à l'intérieur.
Rentrez.
On vous suit. Welcome.
Donc là, vous voyez, sur mon écran, on voit également ce que dit mon collègue de l'autre côté de la porte. Chaque discussion va être comme ceci, transcrite. Est-ce que toi, Ahmed, de ton côté, tu peux nous raconter quelque chose ?
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre réunion internationale.
Доброе утро, дамы и господа, и добро пожаловать в нашу международную встречу.
Autour de la table, il y a des représentants des différents pays du monde.
Mesa hay representantes de diferentes países.
Mesdames et messieurs, je vous invite chacun à choisir votre propre langue et vous allez entendre ce que je dis traduit en temps réel dans votre langue.
Valia de Tesprag du Billo CH du Comerata de Et. Realtai do Versatnim Padi Tesprag.
Et moi, de mon côté, je veux vous entendre en français, donc exprimez-vous librement dans votre langue.
Io per parte mia ho voluto sentirti in francese così esprimersi liberamente nella tua lingua.
Très bien, merci mesdames et messieurs, la réunion peut commencer.
Sehr gut, danke Damen und Herren, von der Sitzung beginnen kann.
Merci Ahmed, ça a plutôt bien fonctionné.
Yvan Ridet, vous avez donc créé cette start-up il y a maintenant un an. Mm-hmm. On dit souvent qu'en France, c'est compliqué de créer son entreprise, qu'il y a beaucoup d'obstacles à la création d'entreprise. À Lannion, on peut lancer son activité sans trop de difficultés finalement.
C'est vrai, je pense, pour toutes les structures dites innovantes. À partir du moment où vous êtes innovant, vous êtes dans la R&D, il y a beaucoup d'aides en fait que l'on peut mobiliser.
Alors la R&D, c'est recherche
la
et
recherche
développement.
Et développement, ouais. Tout ce qui est innovation, recherche et développement, vous avez quand même beaucoup d'aides qui sont mobilisables dès le début de la création. Et à Lannion, c'est encore plus effectivement efficace puisqu'on a cet écosystème qui nous permet d'avoir des partenaires, d'avoir des clients même très rapidement.
Moi, j'étais surpris de pouvoir démarrer de la facturation assez rapidement avec d'autres startups locales qui m'ont commandé en fait des logiciels pour équiper leur propre logiciel à eux. Donc, entre startups locales, on s'entraide. Une activité économique qui se crée, qui nous permet du coup d'avoir des références et de se présenter auprès de plus grands clients, de plus grands groupes, avec déjà des références actives.
Mais il y a cette solidarité locale qui est très importante au début.
Moi, je trouve, oui, effectivement, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à d'autres endroits où j'ai créé dans le passé. Là, il y a vraiment une entraide entre startups qui est très forte.
Est-ce qu'il y a un climat favorable à l'emploi, à l'économie, dans le bassin de Lannion?
Alors, dans le bassin de Lannion, c'est spécial puisque vous avez les grands groupes qui sont là, Orange, Nokia, avec des allers-retours vers l'emploi qui sont assez fréquents. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez ces structures d'aide aux start-up qui sont là un petit peu pour compenser quelquefois les départs de salariés des grands groupes qui viennent créer leur propre structure en local à Lannion. Donc c'est un petit peu comme ça que s'équilibre l'emploi dans le bassin. Et ces structures, ces petites structures qui se créent à nouveau de l'emploi, souvent travaillent avec les grands groupes et ça fait une grande synergie qui fait qu'effectivement on arrive à faire venir des gens de l'extérieur également sur le bassin lannionnais. Donc c'est effectivement un contexte très favorable à l'emploi.
Vous avez une main-d'œuvre qualifiée à disposition parce que ce sont des emplois diplômés.
Oui. Bah nous, on avait besoin de docteurs en informatique, en traitement du signal, donc des profils assez pointus. Et ça, on les trouve sur Lannion parce qu'il y a aussi une grande culture des télécoms, de la reconnaissance vocale, même hein, précisément sur Lannion. Donc toutes ces ressources-là, on peut les trouver plus facilement ici. Ouais.
Thank you, ladies and gentlemen. Holding the meeting can begin.
Je m'appelle Ahmed Gabal, je suis ingénieur télécom et je suis directeur technique.
Vous avez quel âge ?
J'ai 44 ans.
Ahmed, vous êtes d'origine égyptienne.
Exact.
Qu'est-ce qui vous a amené en France ?
La reconnaissance vocale, c'est extraordinaire, mais en dernière année d'école d'ingénieur, j'avais vu une affiche sur la porte d'un de mes professeurs.
Donc ça c'est quand vous étiez au Caire ?
Au Caire, absolument. Donc ça m'a intrigué. C'était une annonce en français, je parlais français, donc j'ai lu l'annonce, ça m'a attiré. Et puis le fait de parler d'ingénierie linguistique, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça m'a énormément intéressé, c'était de la reconnaissance vocale, c'était du traitement du langage. Et j'ai découvert justement un monde qui est complètement nouveau. Donc j'ai fait mes valises et je suis venu étudier ça. Et depuis, j'ai chopé le virus, je suis tombé dans la marmite, comme on dit.
Ça fait un an que vous avez rejoint cette start-up. Comment ça s'est passé? Vous avez postulé? Vous avez envoyé votre CV?
Absolument pas. C'est venu vraiment par du bouche à oreille. On m'a parlé de VoxPass. Je trouvais que ce qu'ils faisaient m'intéressait beaucoup. Je les ai contactés, je me suis présenté. Et en même temps, eux, effectivement, ils ont vu les compétences que j'avais. Ça collé avec le poste et donc ils m'ont recruté et c'était un grand honneur.
Est-ce qu'aujourd'hui Lannion, c'est encore une référence dans les télécommunications et les nouvelles technologies ?
Bien entendu, elle évolue. Aujourd'hui, ça reste bien entendu un grand centre de recherche et développement et puis je vois quand même émerger un intérêt grandissant pour les technologies de cybersécurité et de cryptage. Donc ça évolue avec le temps, bien entendu.
Quand on est ingénieur, comme vous, dans un domaine très spécifique, un domaine de pointe, c'est facile de trouver du travail à Lannion ?
C'est facile de trouver du travail, oui, et c'est encore plus facile de créer son propre travail si on n'en trouve pas. Parce que justement, on est sur des secteurs où on peut, si finalement on ne peut pas trouver facilement un travail, on peut quand même trouver un accompagnement pour créer une entreprise, pour réaliser un rêve ou faire quelque chose dont on a eu l'idée. Moi, personnellement, j'en ai créé peut-être deux ou trois entreprises jusqu'à maintenant. Soit on crée son propre emploi, soit on trouve un emploi dans un secteur ou dans une entreprise qui nous intéresse, mais on continue sa carrière sans aucun problème, ça c'est sûr.
Thank you.
Mesdames, messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.
Gare Lesquin est une petite commune rurale durement touchée par la crise de l'industrie agroalimentaire. Il y a encore quelques mois, l'usine de volaille Tilly Sapco employait ici près de 200 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine. Mise en liquidation judiciaire, l'abattoir de poulet a définitivement fermé ses portes. Une partie de l'activité a été reprise par une société néerlandaise qui n'a conservé que les ateliers où l'on fabrique des saucisses de volaille. La plupart des salariés de Tilly Sapco ont donc été licenciés. Nezaket Oskaya, qu'est-ce que vous faisiez, vous, chez Tilly Sapco ?
Chez Tilly Sapco, moi, j'ai commencé à 16 ans. Donc, j'ai commencé à l'éviscération. Et à partir de 2008, je suis passé au conditionnement. Conditionnement poulet, ben, jusqu'à que je sois licencié, quoi. Déjà, le fait d'être licencié, ça a été un choc, parce que moi, j'ai 26 ans de boîte et j'ai toujours 3 enfants à charge. Donc, je me disais, par rapport à mes enfants, je pense que je ne serai pas licencié. Quand j'ai eu ma lettre, c'est vrai que ça a fait quand même un choc. Et sachant que des personnes qui n'avaient plus d'enfants à charge et qui avaient à peu près le même âge que moi étaient gardées... Là, on a compris qu'on a été jeté comme des moins que rien, quoi. Pour la prime de licenciement, on n'a eu aucun détail, comment ça a été calculé, sur quoi ils se sont basés. Moi, j'ai fait quand même 18 ans à temps plein. Mais
vous avez touché combien de prime licenciement, vous, par exemple ?
Pour 26 ans de boîte, 6400 euros seulement.
Aujourd'hui, vous vivez à peu près combien par mois depuis que vous avez été licencié ?
Depuis qu'on a été licencié, 1500. On se restreint, hein. Pour tout ce qui est nourriture, je me dis, je ne vais pas priver mes enfants. Mais l'avenir me fait peur. Parce que là, j'ai un loyer pour l'aîné. Mais l'année prochaine, je vais avoir un deuxième loyer à payer.
Est-ce qu'on vous a déjà proposé des formations, des possibilités de reconversion ? Comment vous envisagez l'avenir ?
Ben là, sans diplôme, vu que j'ai arrêté l'école à 16 ans, sans diplôme, il faudrait que j'essaye d'aller ailleurs que sur Gare Lesquin, Morlaix, pour essayer de trouver du travail. Donc c'est pour ça que je me dis, autant essayer de faire une formation et d'avoir au moins une reconnaissance, un diplôme, quoi. Je suis à Gare Lesquin depuis mai un an. Je trouverais dur d'avoir à partir, mais si c'est que la solution, je me dis, c'est à envisager.
Donc pour aller à l'usine,
attendez, ben,
on continue tout droit là, ouais, la route.
Oui, vous continuez là, et puis au bout, vous prenez à droite. Et 500 mètres après, vous verrez bien, il y a le parking.
Corinne Nicole, vous êtes une ancienne salariée, vous aussi, de Tilly Sapco. Vous étiez à l'époque déléguée CGT. Vous avez été licenciée, mais vous avez eu la chance d'être réembauchée par le nouveau repreneur.
Oui, il y a 3 salariés qui ont eu cette possibilité, j'en fais partie.
Aujourd'hui, la Bretagne est durement touchée par la crise de l'industrie agroalimentaire. C'est toute une industrie qui aujourd'hui est en berne.
Oui, bah c'est ce qui a permis à la Bretagne de s'émanciper dans les années 60. Tilly, Gade, Doux, ce sont des entreprises qui ont été créées en même temps, à la même période, sous le même modèle, hein, le modèle patriarcal, et qui se sont développées parce qu'il y a eu le système d'exportation qui a été mis en place avec le développement de l'industrie hors sol pour partie, hein, que ce soit dans le cochon, dans la volaille. C'est ce modèle qui a permis à la Bretagne de s'émanciper économiquement, c'est l'agroalimentaire. Et depuis ces dernières années, toutes ces industries sont en train de s'effriter. Et ce tissu tissu qui disparaît fait qu'il n'est pas remplacé actuellement. Et là, c'est désastreux. Et c'est désastreux pour nos familles, pour nos enfants et pour l'économie d'un territoire. Actuellement, on n'a aucune économie qui va permettre de compenser tous les emplois perdus dans l'agroalimentaire.
Puisque l'industrie agroalimentaire bretonne fonctionnait, était très tournée jusqu'à présent vers l'exportation à l'étranger.
Tout à fait. Bon, c'était le cas pour Tilly Sapco. Pas que pour Tilly Sapco. Il y avait deux exportateurs pour la volaille, c'était Doux et Tilly Sapco.
Et ces entreprises touchaient des aides européennes, des aides à l'exportation.
Des aides à l'exportation qui ont été
supprimées en 2013.
En juillet 2013. Ces aides étaient censées compenser la parité monétaire euro-dollar et puis le fait que le prix des céréales. Mais c'était vraiment sur un marché dédié. C'est très facile pour certaines personnes, quand ça les arrange politiquement, de dire quand on ne veut plus son chien, on dit qu'il a la rage. Parce que ce modèle-là, il a quand même été prôné, il a permis des tas de choses. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait a été bien fait. Et je dis, c'est OK, on décide de tout arrêter, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quelle solution on va apporter à l'éleveur qui va perdre ses poulaillers parce qu'il sera pas rechargé ? Qu'est-ce qu'on va apporter à la personne qui va perdre son emploi, qui a toujours travaillé dans l'industrie agroalimentaire et qui est peut-être cassé physiquement parce que le travail est pénible ? Actuellement, le salarié de chez Tilly, qu'est-ce qu'il va faire ? Je suis frustrée, écœurée, en colère, parce que on nous a laissé tomber. J'avais encore des idéaux, je les ai toujours, j'espère, mais certainement plus un idéal politique.
Gilda Juif, je suis maire de Guerlesquin depuis donc les dernières élections de 2014. Voilà, je suis commerçant sur notre commune. Il y a à peu près 1380 habitants au jour d'aujourd'hui.
Ici, la plupart des habitants travaillaient chez Tilly Sapco. Il y a des familles entières qui travaillaient à l'abattoir.
On a connu effectivement des familles, je vous dis, d'une génération à l'autre, effectivement. L'été, alors déjà l'été, c'était important pour les jeunes, parce qu'effectivement, le travail d'été, on pouvait y travailler un mois, deux mois. Et puis très souvent, malheureusement, quand les jeunes cessaient les études, ils savaient que ils avaient la possibilité de trouver un emploi directement. Ils se présentaient, ils étaient pratiquement embauchés sur le champ à l'époque. C'était comme ça. Tu cherches du boulot, allez hop, tu vas aller là, et puis on embauchait facilement, quoi. Un emploi chez Tilly, c'était trois emplois induits à côté, quoi. Aujourd'hui, pour trouver du boulot dans la région, ça devient de plus en plus difficile. Et on se retrouve avec des salariés licenciés aujourd'hui aussi qui ont certaines difficultés, parce que certains n'ont connu que l'entreprise Tilly, c'est-à-dire qu'ils y sont rentrés à 16-18 ans, et aujourd'hui se retrouvent à 50, 55 ans, sans en avoir connu que cette entreprise-là. Donc quand il faut se remettre en question, envisager éventuellement une nouvelle formation, faire les démarches pour s'inscrire au chômage, etc., tout ça, c'est beaucoup de contraintes pour eux, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Même se confronter à un ordinateur pour s'inscrire sur Internet, tout ça devient des démarches des fois compliquées pour certains. Donc là aussi, il y a des mesures qui ont été mises en place, heureusement, par les services de l'État pour les accompagner. Il y a un cabinet de reclassement qui a été, bien sûr, nommé pour les accompagner aussi, mais ça suffit peut-être pas, donc il faut que nous, les élus, on soit présents et vigilants pour les aider. Dernièrement, là, au niveau de la commune, on leur a proposé, si vous avez des difficultés pour remplir vos dossiers, n'hésitez pas, les services de la mairie sont là, donc les secrétaires sont disponibles, elles détachent du temps au personnel pour que, justement, ils accompagnent certains qui ont des difficultés, je vous dis, rien que pour remplir des dossiers, quoi.
C'est vécu ici comme un drame local, la quasi-fermeture de cette usine.
Bien sûr. Ben oui, ça a des répercussions sur énormément de choses. Encore, nous, on a l'avantage d'avoir un centre commercial et quelques commerces encore de proximité qui diminuent un petit peu du fait de baisse de l'activité, mais logique, puisqu'effectivement, je vous dis, de 600 salariés à une époque, on est aujourd'hui à 60. Donc tous ces gens-là, non seulement venaient travailler à Guerlesquin, mais consommaient à Guerlesquin. Moi aussi, j'ai profité aussi de cette entreprise-là, puisque ces gens-là venaient aussi consommer chez nous, enfin du temps de mes parents notamment, encore plus du temps de mes parents, parce que c'était en plein développement, et les gens construisant, les gens aménageaient, donc effectivement, on avait une forte demande à ce niveau-là, quoi. Donc tout le monde a profité, la commune et le territoire a profité de cette entreprise, mais aujourd'hui, oui, malheureusement, ça cesse, quoi.
L'abattoir de Guerlesquin faisait travailler 200 éleveurs dans la région, mais à partir de 2014, l'avenir de l'entreprise est devenu très aléatoire. Certains éleveurs ont anticipé la faillite de Tilly Sapco en se tournant vers d'autres clients pour sauver leur exploitation et surtout essayer de gagner correctement leur vie.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Mazé, éleveur de volaille à Brasparts dans le centre Finistère, sur 4800 m² pour la société Sanders Bretagne.
Vous avez combien de volailles ici ?
Au maxi, nous sommes à 90 000 volailles à peu près.
Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vivre correctement de votre métier ?
Ah bon, aujourd'hui, je vis de mon métier, ce qui n'a pas été le cas les dernières années. Il faut se rappeler quand même qu'en 2014, quand on était chez Tilly Sapco et que les conditions l'entreprise ne tournait pas, j'ai travaillé normalement. Je suis même allé travailler à l'extérieur tout le mois d'octobre et je me suis retiré 2 mois de salaire sur les 12 mois de 2014.
Donc sur une année, vous avez touché combien ?
Ah, je me suis retiré 2000 euros. Qui peut dire mieux ? Il n'y a pas qu'en Bretagne que l'agriculture ne vit pas. Je pense que c'est... on a l'impression et j'en ai la certitude qu'on nous prend pour des besogneux et des bons à rien.
Jean-Paul Mazet, vous avez fait partie du mouvement des Bonnets Rouges en 2013.
Ouais.
Ce mouvement dont on a beaucoup parlé en Bretagne.
Hein. Ouais, qui a fait trembler Paris. Mais qui n'a fait que trembler Paris. Peut-être on aurait pu faire changer les choses à l'époque, mais bon, maintenant c'est trop tard, c'est fait.
Et à l'époque, qu'est-ce qui vous avait poussé à rejoindre ce mouvement ?
Le fait d'en avoir marre de tout et de pas être écouté, quoi. Parce que d'où on est ici, j'ai pas l'impression que les préoccupations soient les mêmes dans les hautes sphères parisiennes.
Vous avez l'impression aujourd'hui qu'en France, il y a vraiment un fossé entre Paris,
ouais,
et le reste du pays ?
Bah, oui. On vit pas dans le même monde. Le monde agricole est autant désabusé de la politique que sont une majeure partie des Français, je pense.
Mesdames, Messieurs, notre TER Bretagne arrive en gare de Morlaix. Terminus du train, assurez-vous de ne rien oublier. À bord de notre TER.
Ce qui est frappant dans le centre-ville de Morlaix, c'est qu'il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, des locaux commerciaux vides, avec des panneaux à vendre. Là, nous sommes dans une rue où environ une dizaine de magasins ont fermé leurs portes.
Voilà, très bien, merci. Au revoir. Le coffre à jouer, bonjour.
Cathy Tanguy, vous êtes commerçante dans le centre de Morlaix. Vous avez un magasin de jouets et vous êtes la présidente de l'association des commerçants.
C'est ça.
Ce qui est assez frappant autour de votre magasin, c'est qu'il y a plein de locaux commerciaux qui sont fermés, qui sont à vendre, à louer.
Complètement. Le dernier magasin là, qui a fermé fin d'année, c'était une bijouterie. Et puis sinon, c'est vrai que les commerçants ont fermé petit à petit depuis 2003. Puisque la zone du Launay, en périphérie à Saint-Martin-des-Champs, s'est beaucoup développée.
C'est un grand centre commercial ?
C'est une zone commerciale. Donc petit à petit, en 2003, 2004, 2005, il y a de plus en plus d'enseignes qui se sont installées. Et vraiment, depuis le 2010, c'est un développement énorme et qui puise tout le commerce du centre-ville, hein, c'est le cas de le dire.
On a l'impression qu'il y a aussi moins de gens qui habitent dans le centre-ville.
Oui, tout à fait. Il y a quelques années, je m'étais fait justement le travail de le soir, quand il fait nuit, de visiter la ville. Et c'est vrai qu'il n'y a pratiquement aucune lumière d'allumée au-dessus des commerces. Ça évolue un petit peu. Depuis 4-5 ans, des particuliers ont investi dans le centre-ville. Mais les travaux sont énormes, donc ça se fait petit à petit. C'est long. Mais par contre, ce sont des appartements maintenant qui sont habités. Donc il y a tout un effort, je pense, à faire là-dessus dans les prochaines années, de nouveau.
Vous travaillez seule ici, Cathy ?
Oui, je m'étais fixée pouvoir embaucher au bout de 3 ans, au moins à mi-temps. Et là, ça va faire 8 ans que je travaille ici, toujours à plein temps, du 9h, 19h en continu, tous les jours. La moitié de l'année, c'est ouvert le lundi. Et je n'arrive toujours pas à embaucher quelqu'un.
Pourquoi ?
Parce que l'activité n'est pas suffisante, puisque les charges sont trop importantes par rapport à l'activité quand je dois embaucher. Donc voilà, c'est très peu de vacances, mais bon, c'est comme ça, il y a plein d'avantages aussi. Hein.
C'est compliqué aujourd'hui d'embaucher un salarié quand on a un petit commerce comme le vôtre.
Ah oui, complètement, complètement. Et il y a plusieurs indépendants là qui justement ont dû se résoudre à licencier, hein, puisque c'était pas possible du tout d'avoir quelqu'un. Parce que les charges sont trop élevées et que le centre-ville là, souffre quand même terriblement économiquement. Donc, il faut attendre. Ça reviendra certainement, mais pour l'instant, le business n'est pas suffisant.
Bonjour, bah, donc moi je suis Hervé Eugène, gérant de l'imprimerie de Bretagne, à Morlaix. Une petite imprimerie de 12 personnes, créée en 78, généraliste, imprimeur généraliste, et puis bien implanté sur le pays de Morlaix. On ne cherche pas forcément un développement national ni international, on a une bonne clientèle locale.
C'est une imprimerie familiale.
C'est une imprimerie familiale.
Qui a été créée par votre oncle.
Qui a été créée par mon oncle en 78. Donc. Moi j'ai rejoint l'équipe en 2005. Donc j'ai appris le métier pendant 3 ans et demi, et j'ai repris en 2009 avec un accompagnement de mon oncle, toujours pour jusqu'en 2013, et donc une autonomie totale maintenant.
Vous avez fait quelles études, vous, avant ?
J'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait des études de chimie et puis une école de commerce.
Et vous avez atterri dans l'imprimerie.
Voilà.
Mais on vous suit.
Donc ici, on est au niveau du stock papier. Assez léger, on travaille en flux tendu. En fait, tous les jours, on commande notre papier avant 18h et on est livré le lendemain, 10h, enfin avant 10h, pour la consommation, de la production qui est prévue dans la journée.
Ici, il y a plein de ramettes de papier qui sont empilées sur des étagères.
Voilà, donc ça, c'est tout ce qui reste de tirage. Parce qu'à chaque fois, on achète 500 feuilles, il en faut 400, et donc il reste 100 feuilles à chaque fois. Donc on accumule, et donc on fait le bonheur des écoles. De temps en temps, ouais, on fait un déstockage et puis on appelle 2-3 écoles et puis qui trouvent leur bonheur avec du papier de couleur, du papier épais. Donc voilà.
Hervé Lejeune, est-ce que votre activité se porte bien aujourd'hui ?
Nous, on avait une spécificité, c'était qu'on n'était pas forcément sur des produits faciles à créer, donc on apportait de la valeur ajoutée et du service, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'imprimerie de Bretagne se porte quand même bien. Mais dans un contexte évidemment compliqué et où il faut continuer d'évoluer, d'investir et de se remettre en question tous les jours, quoi.
Aujourd'hui, Morlaix est une ville qui perd des habitants. Il y a un taux de chômage assez élevé ici par rapport à d'autres coins en Bretagne. C'est compliqué de maintenir l'emploi à Morlaix.
C'est une ville de moyenne taille, donc après voilà, c'est un petit peu vampirisé par les plus grosses villes qui peuvent être Brest, qui est pas très loin. Brest est à 50-60 km. Ouais, il manque plusieurs gros employeurs. En plus, bon, on dépend beaucoup de l'agriculture, qui est quand même un secteur dans lequel c'est compliqué actuellement. Donc forcément, si un secteur va mal, ça peut en cascade, comme vous l'avez vu à Guerlesquin. Hein. Alors le gros employeur de Morlaix, enfin il y en a trois, ça va être le Télégramme. Donc, qui est le journal local, l'hôpital, comme dans beaucoup de villes. Et puis on a une autre entreprise, Termeta, qui fait des échangeurs pour chaudières et qui emploie 600 personnes sur la région de Morlaix. Donc, qui est un gros employeur avec un patron qui a décidé de maintenir l'unité de production ici, alors qu'il aurait pu aller délocaliser ailleurs et produire sûrement moins cher. Mais il a décidé, enfin, il est très attaché au pays de Morlaix. Donc, il y a des choses qui se font, mais pas assez.
Malgré tout, certains patrons d'entreprise comme vous essayent de s'accrocher, de faire vivre leur activité. Vous avez pris plusieurs de vos employés en apprentissage. Mm-hmm. C'est ce qu'il faudrait développer encore plus, selon vous, pour lutter contre le chômage des jeunes ?
Ah oui, je pense que l'apprentissage est un bon moyen de faire rentrer des jeunes dans la vie active, ouais, c'est clair. En tout cas, nous, ici, on a fait l'expérience une première fois en 2010, et c'est une des meilleures réussites, ouais, puisque ça permet de former quelqu'un à une philosophie d'entreprise, à un métier directement dans l'entreprise, et non d'arriver avec de la théorie après des longues études qui finalement apportent peut-être pas grand-chose. Enfin, mal passé pour en parler, parce que j'ai fait des études un peu plus longues, mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus mis en avant et valorisé aujourd'hui dans le système français. Ouais.
Stéphanie, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette imprimerie ?
2 ans. Je vais fêter mes 2 ans, là.
Vous avez toujours travaillé dans ce domaine ?
Oui. 19 ans que je travaille en imprimerie. J'étais apprentie et j'ai bourlingué. Mais à la base, je suis conductrice offset.
Donc, conductrice offset,
c'est sur les grosses machines qui impriment. Voilà.
Avant, vous avez travaillé dans une imprimerie, mais qui était beaucoup plus grosse.
Beaucoup, oui.
Il y avait combien de salariés, à peu près ?
120 salariés, à peu près. Ce qui change des 10 ou 11 que nous sommes ici.
C'est agréable de travailler dans une petite entreprise ?
C'est complètement différent. L'état d'esprit est différent, la façon de travailler est différente. Les horaires aussi sont différents. Ce qui améliore, moi, ma situation au niveau familial.
Parce que votre mari, lui, est...
Votre futur mari
est agriculteur.
Voilà. Ce qui doit me permettre d'avoir un emploi à côté pour avoir du temps pour mes enfants et gérer tout ce qu'il y a à gérer.
Parce que quand on est femme ou future femme d'agriculteur, il vaut mieux avoir un deuxième emploi stable dans la famille.
C'est inévitable. C'est inévitable, sinon on ne s'en sortirait pas. Moi, j'ai des horaires fixes, j'ai un salaire décent pour la région. Donc, c'est vrai que mon ami, si je ne travaillais pas, on ne s'en sortirait pas. On n'aurait pas notre maison, on n'aurait pas tout ça.
C'est quoi un salaire décent pour la région ?
Le SMIC, un peu plus du SMIC. Voilà, ici la vie est moins chère que dans certaines régions, donc on s'en sort correctement.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver du travail dans une ville comme Morlaix.
J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance pour trouver ce poste. Sinon, c'est vrai que j'étais plutôt tentée de changer de boulot, de changer carrément de métier, ce qui était dommage, mais oui, c'est compliqué comme secteur. Il y a 15 ans, on trouvait du travail, voilà, on allait, on trouvait du travail. Maintenant, apparemment, c'est bien compliqué pour les jeunes de nos jours de trouver, sans formation et tout. On ne sait pas où on va, on ne peut pas dire dans 10 ans, l'imprimerie sera encore là, nous, mon ami peut-être qu'il n'aura plus sa ferme, on ne peut pas être optimiste, on ne sait pas.
Habitez à Morlaix ?
Oui.
Et vous travaillez à Brest ?
C'est ça.
Vous faites les trajets tous les jours ?
Tous les jours, depuis le mois de septembre.
Vous faites quoi à Brest ?
Je suis éducatrice spécialisée. J'ai trouvé du travail sur Brest et donc j'ai fait le choix de faire la route tous les jours parce que sinon j'avais pas d'emploi finalement. J'ai eu une opportunité sur Brest, après il y a des possibilités de mobilité sur Morlaix, mais pas dans l'immédiat quoi.
Dans un domaine comme le vôtre, c'est difficile.
Ouais.
Vous avez cherché combien de temps sur Morlaix ?
En fait j'ai été en CDD pendant 4 ans. Voilà, jusqu'à ce que j'obtienne un CDI à Brest. Mais sur Morlaix, je pense encore attendre plusieurs années. En gros, ça me fait 1h30 de trajet en partant de chez moi et en arrivant sur mon lieu de travail. Et ça se fait bien finalement, je pense aux Parisiens qui doivent faire les transports en commun le matin, la route, ça peut être compliqué. Nous, moi, c'est pas forcément dérangeant, mais au moins j'ai un emploi fixe.
Vous êtes un petit groupe là, où vous habitez tous à Morlaix et vous travaillez à Brest ?
Oui, tous à Brest.
Donc j'imagine que vous commencez à vous connaître.
Ouais, c'est aussi l'avantage de prendre le train, parce qu'on a fait des rencontres, et puis c'est plutôt sympa, ça permet un sas de décompression, surtout le soir, on rigole bien, enfin, il y a beaucoup moins de risques, parce que moi je prenais ma voiture avant, et c'est vrai que les risques routiers, il y a vachement de monde sur la RN12, là au moins, voilà, on est vraiment plus serein.
Dans votre entourage, vous connaissez beaucoup de gens qui, comme vous, ont été obligés d'aller travailler en dehors de Morlaix ?
Ah oui, ouais, oui, beaucoup. C'est vrai que le bassin de l'emploi est quand même assez limité et on doit tous travailler à l'extérieur de Morlaix finalement, quoi.
Est-ce que selon vous, Mélanie, la Bretagne reste une région dynamique d'un point de vue économique malgré la crise ?
Je pense que oui, et notamment dans certains secteurs comme le tourisme, voilà. Par contre, je pense que quand on a des métiers un peu spécialisés, je pense à la communication, peut-être à la publicité, voilà, c'est des métiers où on se rend bien compte qu'en Bretagne, il n'y a pas de travail. Et donc les gens doivent partir dans les grandes villes, Paris, voire Nantes. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment des secteurs qui sont bouchés par ici. Pareil dans l'éducation nationale, par exemple, le nombre de copains qui sont partis travailler en région parisienne et qui y restent pendant 10-15 ans parce qu'il n'y a pas de jeunes profs en Bretagne. Il y en a peu, en tout cas, ça fait partie aussi des difficultés de l'emploi breton. Quand on est étudiant en Bretagne, on sait qu'on va devoir partir dans des plus grandes villes pour trouver du travail.
Thank you.
La région Bretagne et SNCF espère que vous avez effectué un agréable voyage et souhaite vous retrouver bientôt à bord de notre TER.
Bon, alors tu vas où d'habitude pour
un peu plus loin, là-bas, un peu plus, on a des collègues là qui...
Emploi, la mosaïque bretonne, c'était un reportage de Yann Gallic avec une prise de son d'Éric Damaggio, quatrième et dernier épisode de la série Train de campagne. Tous les reportages de cette série et celui-ci bien évidemment sont à retrouver sur franceinter.fr grâce à Zora Bensmaïli. Cette semaine, la réalisation est signée d'Audrey Ripouille, assistée de Fanny Cohen-Moreau, mixage Bruno Mourlan. À dimanche prochain.
Vous êtes bien chez Sinoc, société industrielle nautique d'objets culbuteaux. Culbuto pour quand ça tangue, quand ça remue. Nos verres, nos carafes sur la mer, sur l'océan, par tous les temps, jamais ne versent. Nos lampes, nos mixeurs, nos cadres, nos bougeoirs, bien incurvés, essayez-les. Pour votre plaisir, nous réinventons votre plaisance. Nos coupes à champagne se tiendront droites jusqu'en Espagne. Nos bâtons dansant jusqu'à Ouessant. Filiale du groupe Nautilus, nous sommes présents aux Amériques, aux Émirats et même aux îles Cobra. Sinoc et ses gammes Culbuto numéro 1 mondial depuis 1944. Pour votre plaisance, essayez-les, imaginez.